Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Quelques heures nous séparent de la cérémonie officielle d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Mais seulement les endroits où seront vendus les billets pour les compétitions sportives et culturelles ne sont toujours pas connus. En Ituri, plus de 430 000 déplacés ont regagné leur village d'origine depuis le début de cette année, entre autres à cause de l'accalmie observée depuis quelques mois. Des chiffres publiés par le gouverneur de l'Ituri au cours de sa rencontre avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. L'invité de ce journal est le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Parlant de l'absence à Kinshasa de la secrétaire générale de l'OIF à la 9e édition des Jeux de la Francophonie, Christophe Lutundula estime que Louise Mushikiwabo n'a pas besoin d'invitation pour se rendre en RDC. L'OIF étant co-organisatrice de ces Jeux. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie. Mais seulement les endroits où seront vendus les billets pour les compétitions sportives et culturelles ne sont pas encore connus. Même chose pour les endroits où seront distribués les bracelets d'accès à la cérémonie d'ouverture. Les directeurs du Comité national de ces Jeux promettent de dévoiler ces endroits ce jeudi. C'est ce qu'a déclaré Isidore Kwanja hier mercredi au cours de la conférence de presse de lancement des Jeux de la Francophonie ici à Kinshasa. Il est au micro de Vanessa Kongolo.
Les précisions, vous les aurez demain. Parce que. Ok. Vous les aurez demain, pourquoi ? Parce que nous les avons fait faire en France. Ils devaient arriver, ils arrivent ce soir. Dès qu'ils arrivent, nous allons les déployer dans les sites où nous avons prévu pour la vente et pour la distribution gratuite pour la cérémonie d'ouverture.
Et toujours à propos des 9e Jeux de la Francophonie, disons qu'il s'est clôturé hier mercredi à Kinshasa au Stade des Martyrs, le camp international d'entraînement en athlétisme, judo et lutte. Pendant 10 jours, 300 athlètes de 7 pays ont participé à cette préparation. Cela sous l'égide de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES. La secrétaire générale de la CONFEJES a encouragé les athlètes à donner les meilleurs d'eux-mêmes durant les compétitions. D'autres détails dans ce reportage de Fulbert Balolagi et Vanessa Kongolo.
La RDC, comme pays organisateur, a pris part à ces camps d'entraînement international avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Au moment de clôturer, Louisette René Tobi, secrétaire générale de la CONFEJES, a donné ses messages aux athlètes.
Donner le meilleur d'eux-mêmes, de ne pas se décourager si les résultats ne répondent pas à leurs espérances et qu'ils restent fair-play, disciplinés et constituent de vrais ambassadeurs pour leur pays respectif.
Alain Snail, directeur technique du Centre international d'athlétisme de Dakar, explique l'importance d'une telle rencontre.
À partir du moment où il y a des enjeux et des événements comme les Jeux de la Francophonie, il y a de grandes rencontres, de grandes compétitions et un affrontement en différents pays, la formation des officiels est un acte et sont un élément important et la préparation des athlètes pour pouvoir faire de hautes performances.
Du côté de la RDC, l'organisation de ces camps, la construction des infrastructures témoigne un bon achèvement, assure Bodi Ilunga, secrétaire général au sport.
Et vous avez suivi la secrétaire générale des CONFEJES, c'est pour dire que nous sommes contents de l'engagement du pays pour la réussite de cet événement. Je ne peux qu'être heureux. Tout ce qu'on a ici comme infrastructure.
Au cours de la cérémonie, des brevets de participation ont été remis aux athlètes.
En Ituri, plus de 430 000 déplacés ont regagné leur village d'origine depuis le début de cette année. Ces chiffres ont été publiés par le gouverneur de l'Ituri au cours de la rencontre avec la chef de la MONUSCO. Ce retour progressif de la population dans plusieurs localités de la province est dû, entre autres, à l'accalmie observée depuis quelques mois. Cependant, la situation humanitaire reste préoccupante en Ituri avec plus d'1 700 000 déplacés et réfugiés. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Les violences des groupes armés ont sensiblement diminué depuis les mois de mars dernier dans presque toutes les entités de la province. L'attaque la plus meurtrière est celle du site de Lala où 46 déplacés ont été tués en juin dernier par des groupes armés dans les territoires des Djougou, affirment des sources de sécurité. Malgré cela, on assiste à une relative accalmie qui a encouragé de nombreux déplacés à retourner dans leur village. Ce mouvement retour progressif est observé dans tous les 5 territoires, des 126 000 personnes à Djougou, 109 000 à Irumu, 74 000 à Mahé, Bahagi et 19 000 à Mambasa, révèlent les derniers rapports des humanitaires. Selon les autorités provinciales, Ituri compte à ce jour 1 738 000 déplacés, dont 7 311 réfugiés du Soudan du Sud, installés aussi des Biringi dans les territoires d'Aru. Ces personnes sinistrées vivent dans des conditions difficiles et ont besoin d'une aide d'urgence, ont déclaré les humanitaires à la chef de la MONUSCO Bintou Keïta lors d'une rencontre mardi. Cependant, la solution durable demeure le rétablissement d'une paix durable pour les retours de tous ces déplacés dans leurs entités respectives. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et dans la commune rurale de Kanyabayonga, au Nord Kivu, la population dit vivre un calvaire depuis l'occupation du territoire des Rutshuru par les rebelles du M23. En effet, plusieurs habitants avaient dû fuir leur région pour trouver refuge dans ce territoire de Lubero. Avec la fermeture de la route Butembo-Goma, la circulation des biens et marchandises est devenue difficile, voire impossible à Kanyabayonga et ses environs. La société civile recommande ainsi au gouvernement de rétablir la paix dans toutes les zones en proie à l'insécurité pour permettre le retour des personnes déplacées dans leur milieu d'origine. Daniel Muindo Sengemoja, président de cette structure citoyenne, l'a dit au téléphone de Guylaine Kassassia.
Les problèmes économiques aujourd'hui à la commune de Kanyabayonga est lié à la sécurité. Quand il y a eu affrontement entre les militaires du Rwanda contre les FRDC, il y a eu toute une population du territoire de Rutshuru, territoire de Masisi, Nyiragongo, qui se sont déjà éversés dans la commune de Kanyabayonga. Vous allez constater, dans une ménage où il y avait 5 personnes, aujourd'hui on va trouver 20, 25 ou 30. Aux alentours de la cité, il y a des groupes armés, c'est un problème sérieux. Alors, les gens qui se rendent au château, on leur demande au moins 1000 francs par semaine. Si on n'a pas 1000 francs, on doit être sérieusement torturé. Et lorsqu'on a peur d'être torturé ou de céder les 1000 francs par semaine qu'on n'a pas, par exemple, on est obligé de rester dans sa maison. Dans l'état passé, on achetait 100 kilos de farine au moins à 50 ou 45 000 francs. Mais aujourd'hui, 100 kilos de farine coûte 100 000 francs. Cela épate complètement l'économie de la commune. Il n'y a pas la circulation monétaire parce que la route est complètement barricadée. Si l'état pouvait poser la paix d'Aruchuru, Balikal et Massis, il y aurait quelque chose qui irait de soi parce que là, on aurait gagné quand même la sécurité.
Au Kasaï oriental, le gouverneur de province a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Plusieurs greffes sont portées à charge de Patrick Mathias Kabea. C'est notamment l'outrage à l'Assemblée provinciale et le détournement des deniers publics. Juridiquement parlant, que signifie la mise en accusation d'un gouverneur de province ? Explication avec vous, Esther Ndalafina.
L'article 68 de la loi numéro 08-012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces stipule que les gouverneurs de province ou les vice-gouverneurs seront coupables d'outrage à l'Assemblée provinciale ou d'autres infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. L'Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. De l'autre côté, la loi organique numéro 13-010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation évoque ce point dans son article 87, je cite « Sans préjudice de la procédure en matière d'infraction intentionnelle flagrante, le gouverneur, le vice-gouverneur des provinces et les ministres provinciaux ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l'Assemblée provinciale statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres qui la composent. » Fin de citation. Les dispositions des articles 80 alinéa 2 stipulent que tout membre du gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire.
L'Agence de la présidence de la République en charge des préventions et lutte contre la corruption, APLC, et la FEC conviennent de mutualiser leurs efforts afin de combattre de manière efficiente la corruption en RDC. C'était au cours d'une rencontre d'échange hier mercredi à Kinshasa, au siège de la FEC, entre une cinquantaine de représentants d'entreprises, membres du patronat et la coordination de l'APLC. Après évaluation de quelques dysfonctionnements et approches bénéfiques dans le combat contre ce fléau, les deux parties ont convenu de renforcer leur niveau de collaboration. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
Monsieur le coordonnateur, au lendemain de la création de l'APLC, a fait que l'APLC s'était rapproché et avait collaboré. Malheureusement, cette collaboration n'a plus été au beau fixe pour des raisons diverses. Les interventions sur place de l'APLC auprès des entreprises nous ont davantage éloignés, sinon presque séparés. Et
pourtant, Kimona Bonongue, administrateur délégué, interpelle ainsi l'APLC juste avant que les autres représentants des entreprises de la RDC ne renchérissent, en saluant tout de même quelques autres actions que mène l'APLC sur terrain. Kimona Bonongue.
Les interventions de l'APLC sont opportunes. Mais il faut qu'on mette un service spécialisé. Comme l'a dit le coordonnateur, on est en train de mettre des nouveaux magistrats qui vont être, je dirais, éduqués, élevés d'une autre manière, de telle manière qu'ils fassent véritablement un travail.
Thierry Mboulamoko, coordonnateur de l'APLC, salue cet échange qui vient conforter le travail que mène son agence.
Les échanges se sont bien déroulés, les missions ont été bien comprises et il y a un cadre de collaboration qui est jeté. Donc il y aura un point focal APLC, il y aura un point focal FEC, justement pour dissiper tous les malentendus et clarifier les missions de l'agence pour que la lutte contre la corruption, même dans le secteur privé, soit une réalité.
La Fédération des entreprises du Congo et l'APLC viennent ainsi, à travers cette rencontre de mercredi, de communiquer leurs avis pour faire de la lutte contre la corruption en RDC un véritable levier pour booster l'économie congolaise.
Dans la province du Haut-Uele, les activités ont été complètement paralysées hier mercredi dans quatre territoires, à savoir Dungu, Faradje, Niangara et Wotsa. Ceci fait suite aux journées villes mortes décrétées par la synergie des sociétés civiles de ces contrées. Cette décision et bien d'autres ont été prises la semaine dernière au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Faradje. Assemblée consacrée essentiellement à l'analyse de la gestion de la chose publique dans cette province. Le point avec vous Jacques Moukonkolé.
Le mot d'ordre de deux journées villes mortes a été largement suivi par la population des territoires concernés. Témoignage d'Étienne Tandelé, président de la société civile Force Vive de Faradje.
Les activités commerciales, les marchés, les bureaux administratifs, même les stations carburant sont fermées. Seulement quelques pharmacies qu'on a ouvertes au niveau des hôpitaux, on trouve seulement les services minimums. Il n'y a pas de circulation, les motos, les parkings des motos sont fermés.
La paralysie des activités socio-économiques a été également observée à Niangara, comme le confirme Dominique Bombewa Bombe, président de la société civile du Congo.
Nous confirmons ça, nous confirmons cela. Nous payons des taxes provinciales. La redevance ne fait rien, raison pour laquelle la population ne contente parce qu'il n'y a aucune réaction de la part des gouvernements provinciaux.
Certaines autorités politico-administratives regrettent de n'avoir pas été informées au préalable par les organisateurs de ces actions citoyennes. Rappelons que les journées villes mortes et l'incivisme fiscal, notamment, figurent parmi les actions retenues par la synergie des sociétés civiles des territoires précités pour décrier la gestion de leur gouverneur de province. L'objectif est poursuivi, déclare-t-on, et de le pousser à la démission. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dernier reportage de notre série sur les problèmes des dessertes en eau potable dans la ville de Goma, au Nord Kivu, où la vente d'eau est l'une des activités lucratives. La régie des eaux n'étant pas à mesure de couvrir les besoins de la population en eau potable, quelques habitants s'organisent pour commercialiser cette denrée dans les quartiers et dans les agglomérations périphériques non desservies par la régie des eaux. Comment se passe alors cette activité dans la ville de Goma? Gabriel Wamenya, reportage.
Hali Hangi est un vendeur d'eau depuis 10 ans maintenant. Chaque matin, il quitte sa maison de bonne heure et se dirige au lac sur sa vieille bicyclette chargée de 12 bidons vides. Une fois rempli d'eau, il les superpose sur sa bécane et se met en route pour la vente. Il se rend surtout dans les endroits les plus fréquentés comme le marché, les sites de déplacés, dans les avenues où la régie des eaux n'arrose pas. Hali Hangi vend son eau à 500 francs congolais les bidons et il lui faut plusieurs courses au lac pour réaliser sa recette. Il explique.
Depuis 10 ans, je fais toujours le même travail. Je scolarise mes enfants et je suis bien à leurs besoins. Par jour, je fais 5 tours et je transporte par course 12 à 10 bidons.
Au-delà des propriétaires des tanks, les vendeurs à la criée marchandent aussi l'eau dans la ville. Les prix varient selon le contenu de la bouteille. Tout compte fait, la problématique d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Goma requiert une attention des autorités compétentes au regard de la démographie galopante que connaît la ville depuis ces 5 dernières années. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Cap.
Actualité internationale.
Au Niger, des militaires ont affirmé hier mercredi en fin de soirée avoir renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum. Dans une déclaration lue par l'un d'entre eux à la télévision nationale à Niamey, au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un acte notamment motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans ce pays, selon le colonel-major Amadou Abdraman Sandjodi. Sommet Afrique-Russie, un test politique pour Moscou aux multiples enjeux. Ces assises qui se tiennent ce 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg doivent permettre à Moscou d'approfondir des relations sur le continent et de jauger ses alliés.
L'invité.
L'invité de ce journal est le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Parlant de l'absence à Kinshasa de la secrétaire générale de l'OIF à la 9e édition des Jeux de la Francophonie, Christophe Lutundula estime que Louise Mushikiwabo n'a pas besoin d'invitation pour se rendre en RDC. L'OIF est encore organisatrice de ces Jeux. Christophe Lutundula s'entretient avec Yeli Kouté.
Monsieur Le Vépin, bonjour.
Bonjour.
Vendredi 28 juillet, ça sera le lancement des 9e Jeux de la Francophonie. Nous apprenons via la porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, qu'elle ne se rendra pas à Kinshasa pour le lancement de ces Jeux. La raison avancée est qu'elle n'aurait pas reçu d'invitation de la part du gouvernement congolais. Est-ce que vous confirmez cela?
Écoutez, il faut éviter de créer des polémiques et surtout pas de casus belli là où cela ne peut pas se justifier. En effet, les Jeux de la Francophonie sont co-organisés. La francophonie, entendez l'Organisation internationale de la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services et l'espace, le terrain. Sous le plan institutionnel, c'est-à-dire des règles établies, il n'y a pas lieu d'inviter l'organisateur qui est l'OIF, pour ne pas dire la personne du secrétaire général. Je parle du secrétaire général parce qu'il s'agit de principes. Certainement que s'il y avait lieu de l'inviter, ça ne poserait aucun problème. Demander une invitation, c'est faire exception, c'est-à-dire supposer qu'il y a un problème. C'est que nous ne nous voulons pas, parce que nous nous faisons la part des choses, entre la personne du secrétaire général, son statut et son origine. Quelle qualité de pays d'où le secrétaire général ou la secrétaire générale est venue. Si aujourd'hui, Madame la secrétaire générale, qu'elle n'est pas en position, en motivation de remplir les charges de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne sommes pas là pour faire obstacle à quoi que ce soit, mais nous tenons à rester dans l'institutionnel, parce que c'est comme ça que c'est établi, parce que il ne faut pas personnaliser la question. Deuxièmement, la semaine dernière, l'ambassadeur de France m'a écrit une note verbale qui est le document habituel en la matière pour me dire ce qui suit. Que Madame la secrétaire générale était en train de venir et que, en vertu de l'accord de siège signé par la France et l'OIF, la France a la charge de la sécuriser, de l'accompagner partout où elle part. Et que par conséquent, il nous est demandé à nous, RDC, pour ne pas dire ministère des Affaires étrangères, de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour l'arrivée de ce jour de madame qui arriverait dans la note verbale le 27, c'est-à-dire demain à 19h, par un vol régulier de France, pour repartir le 29 par le même vol régulier. Et d'ailleurs, dans le programme du 28, c'est Madame la secrétaire générale qui invite le chef de l'État à ouvrir les Jeux. J'ai répondu à Monsieur l'ambassadeur par note verbale pour lui dire que aux affaires étrangères, les dispositions protocolaires sont prises. Je lui dis aussi que je venais de saisir mon collègue, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Sécurité, Peter Kazali, pour qu'il prenne les dispositions sécuritaires. Et celui-là m'a répondu que tout est OK. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous n'avons pas eu une notification du contraire. Et on ne répond pas à un gouvernement, pas une déclaration médiatique, fût-elle celle faite par le porte-parole de Madame la secrétaire générale. Non, nous sommes dans l'administration, nous sommes dans la diplomatie. Il y a des formes, il y a des règles d'expression qui sont admises. Donc, pour nous, jusqu'à maintenant, Madame la secrétaire générale Moufik-Wabo est en train de venir et nous sommes prêts à l'accueillir, j'allais dire, à bras ouverts.
Ce n'est pas la crise congolo-rwandaise qui s'invite dans les Jeux de la francophonie?
Je vous ai dit que pour nous, on fait la part des choses entre l'institutionnel et, si vous voulez, le bilatéral entre États ou le personnel, l'individuel. Non, c'est l'organe secrétaire général qui vient. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas la Rwandaise et que sais-je encore.
Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, était notre invité dans un entretien avec Linkouté. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Irung. La technique était assurée par Alain Goy. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.